Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis très ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble aujourd'hui pendant une heure pour mon émission Zone de Contact. Au programme aujourd'hui, des mercenaires étrangers horrifiés par la contre-offensive ukrainienne, l'Égypte qui s'attend à une hausse du nombre de touristes dans son pays et Air Algérie qui va renforcer ses liaisons aériennes en Russie. Les pays membres de l'OTAN se sont réunis à Vilnius. Un conseiller français en stratégie internationale décryptera les dessous des décisions annoncées pendant ce sommet. Les athlètes russes et biélorusses pourraient être interdits de participer au prochain JO de Paris, alors qu'une déclaration spéciale en faveur du libre accès de toutes les délégations nationales à la compétition a été signée par 120 pays. Un expert politique malien et deux analystes camerounais et burkinabés ont commenté cette posture occidentale qui va à l'encontre de nombreuses chartes internationales. La contre-offensive vantée par l'Ukraine depuis des mois s'est révélée être un véritable cauchemar. Rhys Byrne, un Irlandais de 28 ans, a donné une interview à une chaîne de télévision britannique sur les combats sanglants s'y déroulant pendant la contre-offensive. Selon le Dublinois, sur la ligne de front côté ukrainien, il y a des morts partout, à un tel point que l'accès aux tranchées en est rendu compliqué. Il a expliqué que lui et son unité étaient obligés d'enjamber les cadavres. Ce n'est pas le seul mercenaire à faire ce constat. Auparavant, deux citoyens des États-Unis qui ont pris part au combat avec l'Ukraine ont déclaré à un journal américain qu'ils étaient choqués par la situation sur le front, qui est bien pire que ce qu'ils ont connu lorsqu'ils ont participé aux guerres en Irak et en Afghanistan. Face à ce carnage, un des deux soldats a déclaré avoir dissuadé des amis de vouloir rejoindre d'autres mercenaires qui combattent aux côtés de Kiev. Quant au second, il s'est plaint du niveau de formation des militaires ukrainiens ainsi que d'autres mercenaires étrangers qui vont au combat sans avoir d'expérience militaire. Pour rappel, la défense russe a annoncé que 11 675 mercenaires étrangers sont arrivés en Ukraine pour prendre part aux hostilités. Ils viennent de 84 pays, essentiellement de Pologne, des États-Unis, du Canada ou encore de Géorgie. Plus d'un tiers d'entre eux ont été tués et le même nombre a préféré fuir d'Ukraine. Le ministère a noté que le commandement ukrainien les utilisait comme de la chair à canon afin de les lancer à l'assaut contre les Russes. En ce qui concerne la France, elle est également bien représentée parmi les mercenaires. Une radio française a rapporté qu'une centaine de mercenaires, dont plusieurs sont proches des mouvements d'extrême droite, combattent actuellement du côté ukrainien. Certains revendiquent clairement leurs idées néo-nazies et sont fichés par les services de renseignement français. Toujours selon cette radio, la plupart des combattants français doivent mettre la main au portefeuille pour s'équiper, car l'armée ukrainienne n'arrive pas à fournir le matériel nécessaire. Un combattant a confié aux médias avoir déboursé près de 50 000 euros pour aller au front. Enfin, le retour de ces mercenaires en France ne sera pas triomphal. L'expérience de combat acquise en Ukraine et le profil radical de ces individus est un problème pour Paris. Fin avril, deux Français avaient été interpellés en possession de matériel militaire à la descente de leur car alors que ces derniers revenaient d'Ukraine. Ils ont été condamnés à 15 mois de prison ferme, dont 9 avec sursis. Le secteur du tourisme en Égypte a enregistré des chiffres encourageants. Ahmed Issa, ministre du Tourisme et des Antiquités, a déclaré que plus de 7 millions de touristes ont visité l'Égypte au cours du premier semestre de cette année. Le ministre a apprécié les efforts entrepris par le secteur privé en coopération avec les autorités pour avoir atteint ces résultats. Ces résultats confirment le redressement du secteur qui avait été fortement touché par la pandémie de Covid-19. En 2022, 11,7 millions de touristes ont visité l'Égypte contre 3,7 millions lors de l'année 2020. Pour rappel, le pays des pharaons s'est fixé pour objectif d'accueillir 15 millions de visiteurs cette année et de dépasser ainsi le record établi en 2010 avec 14,7 millions de touristes. En mars dernier, M. Issa a annoncé que le gouvernement avait élaboré une nouvelle stratégie nationale visant à développer l'industrie de 25 à 30% par an et qu'il tablait sur une hausse du nombre de touristes à 30 millions par an d'ici à 2028. Air Algérie va renforcer ses vols directs à direction et en provenance de la Russie. Le 27 juillet prochain, cette compagnie aérienne va lancer pour la première fois des vols directs entre Saint-Pétersbourg et Alger. Le service de presse de la société opérateur de l'aéroport international Poulkovo a précisé dans un communiqué que ces vols seront opérés trois fois par semaine, les mardis, les jeudis et dimanches avec des Boeing 737-800. Le service de presse a ajouté que l'aéroport d'Alger était une importante plateforme de correspondance permettant aux voyageurs de poursuivre leur voyage vers plus de 75 destinations en Europe, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Ce renforcement du nombre de vols directs entre la Russie et l'Algérie n'est pas anodin. La déclaration sur le partenariat stratégique approfondi, signée par les deux pays en juin dernier, prévoyait une augmentation des vols directs. Pour rappel, une liaison aérienne directe existe déjà entre Moscou et Alger. 3 vols par semaine relient les deux capitales. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Les pays membres de l'OTAN se sont réunis en Lituanie à Vilnius. Ce sommet de l'Alliance Atlantique était scruté de près suite au souhait de l'Ukraine de rejoindre le groupe. Malgré le déplacement du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans ce pays balte, Kiev n'a pas obtenu ce qu'elle désirait, à savoir une invitation à rejoindre l'OTAN. Un plan simplifié d'adhésion à l'Alliance a été proposé, sous conditions et sans délai concret. Selon le secrétaire général du bloc, Jens Stoltenberg, l'Ukraine ne peut pas devenir membre de l'OTAN tant que le conflit n'est pas terminé. Fait curieux, malgré une position depuis le début jusqu'au boutiste en faveur de la victoire de l'Ukraine, M. Stoltenberg a déclaré que Kiev ne rentrerait pas dans l'OTAN en cas de défaite contre la Russie, une première depuis le début du conflit. Au micro de Spoutnik Afrique, Alain Corvet, conseiller français en stratégie internationale, nous décrypte les dessous de ce sommet. Écoutons-le tout de suite.
En marge du sommet, la France a doté l'Ukraine d'une cinquantaine de missiles Scalp. Et donc, pour rappel, Paris avait déjà envoyé à Kiev les fameux obusiers César qui seraient utilisés sur des cibles civiles dans le Donbass. Et pourquoi la France ne s'intéresse pas aux conséquences de ces actions sur la population civile ?
Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas au gouvernement et je ne sais. Je m'étonne même de certaines décision prise par le gouvernement français qui semble s'aligner sur la politique américaine sur le sujet. Il y a également des AMX 10 RC qui ont été envoyés et dont on a su que certains avaient été détruits par l'armée russe. Moi, je pense qu'il faudrait diminuer les tensions et plutôt essayer de s'orienter vers des ouvertures pour une négociation entre la Russie et l'OTAN. Alors en fait, entre la Russie et l'Ukraine, mais c'est en fait entre la Russie et l'OTAN, et donc avec les États-Unis. Et là, le sommet de Vilnius a montré que les gens, les participants au sommet, c'est-à-dire les membres de l'OTAN, proposent plutôt de continuer à soutenir l'Ukraine. Enfin, ça, c'est les déclarations de façade. Et je pense que les différentes déclarations qu'on a entendues, on ne veut pas faire la guerre à la Russie et d'autres, il y a une hypocrisie énorme dans ces déclarations, mais je pense que le sommet de Vilnius entérine la défaite sur le terrain, la défaite militaire de l'OTAN face à la Russie sur le terrain ukrainien, et que ils n'ont fait que d'essayer de sauver la face en disant on va continuer à soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire, victoire qu'ils savent parfaitement impossible. Et donc on est dans une grande hypocrisie et je pense que ça semble indiquer que les dirigeants les plus sérieux de l'OTAN ont compris qu'ils ne pourraient pas l'emporter sur la Russie en Ukraine et qu'il allait falloir s'orienter vers une solution. Parce que dire qu'on soutiendra l'Ukraine jusqu'à la victoire, c'est une contre-vérité, c'est une aberration. Et puis, il faut voir qu'est-ce qui se cache derrière les mots. Quelle Ukraine vont-ils soutenir ? Parce que, puisqu'ils n'ont pas de victoire sur le terrain, et on voit bien que la contre-offensive ukrainienne là, est décimée et entraîne des milliers de morts ukrainiens chaque jour un peu plus. On voit bien que les territoires qui sont pro-russes dans l'Ukraine resteront à la Russie. Donc il y a énormément d'hypocrisie dans tout ça, mais il me semble qu'à travers les déclarations du sommet de Vilnius, Il y a une prise en compte du fait qu'on ne peut pas battre la Russie. Alors, on peut toujours annoncer des F-16 et des missiles à longue portée capables de frapper la Russie, mais les dirigeants les plus sérieux de l'OTAN et Stoltenberg, qui est le secrétaire général de cette organisation, et même Biden dans certaines de ses déclarations, on voit bien qu'ils ont pris conscience qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre.
Justement, le sommet de Vilnius, je vais y revenir, on a le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui a déclaré que l'Ukraine ne pourra pas être admise au sein de l'Alliance avant la fin du conflit. Et selon un média, on a le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a jugé absurde l'absence d'un calendrier pour l'adhésion de Kiev à l'OTAN. Je rappelle pour nos auditeurs qui nous écoutent que l'année 2024 sera décisive à plus d'un titre, puisqu'on a des élections aux États-Unis, en Russie, mais aussi en Ukraine. Et donc, quelles seront les conséquences pour le président ukrainien suite à ce camouflet ?
Alors, effectivement, on a vu, certains ont même dit que le président Zelensky s'était trouvé isolé à Vilnius, à ce sommet. En tout cas, il est certain que le sommet n'a pas rencontré ses attentes, puisque, comme je l'ai dit précédemment, il y a eu des déclarations des différents responsables qui voulaient masquer la vérité de l'échec militaire sur le terrain de la coalition de l'alliance otanienne. Donc, effectivement, quand on parle de l'Ukraine, on ne sait plus de quelle Ukraine on parle, parce que vous avez le président Orban de Hongrie, vous avez le premier ministre de Roumanie, enfin, vous avez des pays qui ont des minorités au sein de cette Ukraine, qui indique nettement que l'avenir de l'Ukraine telle qu'elle est encore conçue aujourd'hui, cet avenir est qu'elle soit divisée entre une Ukraine occidentale, c'est-à-dire plutôt favorable à l'Union européenne et aux pays européens, et puis et au sein de cette Union européenne occidentale, il y a une partie qui est sous influence polonaise, une autre sous influence roumaine, une autre sous influence hongroise. Puis, de l'autre côté, une partie qui est non seulement sous influence russe, mais qui est maintenant devenue russe. Donc, on ne sait plus de quelle... Quand on emploie le mot Ukraine, on ne sait plus de quelle limite territoriale ça définit ce pays. Donc, effectivement, le président Zelensky a été déçu par ce qui s'est passé à Vilnius, par les décisions qui ont été prises à Vilnius, et notamment de ne pas intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, mais quelle Ukraine, je répète. Hein. Et donc, il y a une, à mon avis, l'indication que les membres de l'OTAN ont entériné le fait qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre sur le terrain, mais qu'ils n'ont pas d'autre solution, et ils ne peuvent pas se permettre de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, car ce serait déclarer la guerre, ce serait synonyme d'une déclaration de guerre à la Russie. Donc vous voyez, il y a tellement d'hypocrisie dans toutes les déclarations, et en même temps, on voit bien qu'ils ne veulent pas reconnaître leur échec sur le terrain, mais que dans les faits, c'est une reconnaissance a contrario de l'échec otanien sur le terrain.
Justement, il y a eu un élément de langage qu'on n'avait pas encore remarqué auparavant. Stoltenberg avait déclaré, je cite, et ça c'est vraiment une première, que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN si elle perdait le conflit. Selon vous, pourquoi, durant ce sommet, on a assisté à cet élément de langage qui est assez inédit ?
Oui, vous avez raison de citer ça. Moi, je crois que Stoltenberg, quelles que soient ses déclarations dont les dernières, me paraît être... il faut décrypter son langage. Et je pense qu'il a compris, lui, ce que je vous ai dit précédemment sur l'échec militaire sur le terrain, et qu'il doit, lui et les gens qu'il conseille, être en train de préparer une ouverture pour mettre enfin un terme à cette guerre qui est déjà perdue par l'OTAN. Et donc, je pense que effectivement, l'OTAN est dans une impasse. Il ne sait pas comment sortir de ce conflit, parce qu'évidemment, derrière l'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique. On voit bien que la géopolitique mondiale est en train de s'orienter en faveur des puissances qui sont soit carrément hostiles aux États-Unis, soit en tout cas qui préfèrent s'entendre avec la Russie et la Chine. Donc, il reste deux puissances qui sont l'Inde et la Turquie, qui jouent sur les deux tableaux, mais on voit bien que la nouvelle géométrie du monde est désormais plutôt favorable à l'Est, et donc à la Russie et à la Chine, aux BRICS d'une manière générale, et sur le terrain, l'OTAN perd la guerre sur le terrain ukrainien. Donc, Stoltenberg me paraît être celui qui a compris que la guerre ne pouvait pas être gagnée sur le terrain ukrainien et même qu'elle était déjà perdue. Donc, les dirigeants ont tous en tête le fait qu'au début du conflit, on disait qu'il faut trouver une solution négociée, mais on ne peut pas humilier la Russie. Mais ce principe est inversé désormais. On ne peut pas humilier l'OTAN, sous-entendu, on ne peut pas humilier les États-Unis. Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si ça a été enregistré, l'ensemble de la géométrie du monde est en train de s'organiser autrement et les puissances qui sont hostiles aux États-Unis se structurent et s'organisent pour créer un monde qui ne sera plus sous la domination des États-Unis d'Amérique. L'hégémon, comme pour employer le terme grec qui définit l'hégémonie américaine. Et donc, on est dans une situation où aujourd'hui, et après Vilnius, je pense que en lisant à contrario les différentes déclarations, il va falloir chercher une sortie honorable pour les États-Unis de ce conflit qu'ils ont provoqué, tout le monde le comprend bien, et il faut éviter une solution à l'Afghanistan où ils sont partis comme des voleurs. Il va falloir que, d'ailleurs je pense que le président Poutine étant un stratège hors pair, il sait bien lui aussi que les États-Unis sont quand même une grande puissance nucléaire qu'on ne peut pas humilier, donc il facilitera certainement la possibilité d'une issue relativement honorable pour les États-Unis.
On va passer à la diplomatie. Alors, on a le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmitri Kouleba, qui a déclaré que son pays ne sait pas quelles conditions il doit remplir pour entrer dans l'OTAN. De son côté, on a la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, qui a qualifié ce sommet de « fail sommet ». Quel commentaire pour vous faire?
Je pense qu'elle a raison, Maria Zakharova, parce que effectivement, et comme je l'ai dit depuis le début de mon entretien avec vous, ce sommet, à contrario des déclarations officielles qui ont été faites, entérine la défaite de l'OTAN dans la guerre contre la Russie en Ukraine. Donc, effectivement, le ministre des Affaires étrangères ukrainien a raison. Il y a un problème avec quelques... L'OTAN n'est pas un bloc unifié, parce que on voit bien que la Turquie joue un rôle à part, et le président Erdogan est un manœuvrier en permanence. Il joue sur les deux côtés, parce qu'il veut rester en bon terme avec la Russie, mais en même temps, tout à fait récemment, là, il a fait des déclarations dans lesquelles il a dit qu'il était d'accord pour engager le processus d'intégration de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, et que ce sera voté à son parlement turc, je crois, en septembre, en tout cas à la rentrée. Voilà, sur le plan diplomatique, il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement, mais qui entérinent le fait que l'OTAN a perdu sa guerre contre la Russie en Ukraine et que il faut donc trouver une solution honorable, une sortie honorable du conflit, non plus cette fois-ci pour la Russie, parce que la Russie a des acquis qu'elle mettra en avant, Mais pour les États-Unis d'Amérique, j'ai cité tout à l'heure le départ d'Afghanistan des États-Unis qui était pas très honorable, justement. Je pense que le président Poutine est un stratège et qu'il sait bien qu'on ne peut pas humilier une grande puissance comme les États-Unis d'Amérique, mais grande puissance qui a perdu de sa grande puissance et qui est maintenant, qui doit entrer dans un monde multipolaire où elle aura un rôle à jouer, mais pas plus que certaines puissances, et où elle devra accepter et reconnaître les intérêts légitimes des autres nations, et notamment des intérêts de sécurité, ce que jusqu'à présent les États-Unis d'Amérique ont toujours refusé aux autres pays, et notamment à la Russie, et qui a justifié l'intervention russe en Ukraine. Donc, la géopolitique mondiale est en train de se transformer et nous entrons dans un monde multipolaire dans lequel il n'y aura plus de bloc dominateur. Et donc, l'hégémonie américaine qui s'est répandue sur la planète après l'effondrement du RSS est terminée. Les puissances des BRICS, mais même en dehors des BRICS, et en plus il y a plein de candidats, une vingtaine de candidats, 25 je crois candidats à entrer dans les BRICS, tout ça montre que l'hégémonie américaine est terminée et que les États-Unis doivent se préparer à être une puissance importante, sans doute, compte tenu de leur dimension et de ce qui reste de leur puissance économique et militaire, mais une puissance qui devra respecter les autres puissances et notamment les intérêts économiques et surtout stratégiques et sécuritaires des autres puissances, ce que, quand elle étendait son hégémonie sur le monde, elle refusait de reconnaître les intérêts des autres puissances et notamment de la Russie. C'est ce qui a été le déclencheur de l'opération militaire russe en Ukraine, parce que la Russie était obligée de montrer aux États-Unis qu'elle ne pouvait pas se laisser écraser comme ça avec le rapprochement des missiles nucléaires américains de ses frontières. Donc, on entre dans un nouveau monde dans lequel les États-Unis ne vont pas disparaître, mais son hégémonie va disparaître. Elle est déjà en cours de disparition. On voit bien, quand vous voyez l'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran sous l'égide de la Chine, quand vous voyez que l'Arabie saoudite favorise la Russie dans ses échanges et dans ses accords, on voit bien que tout a basculé et que l'hégémonie américaine est terminée. Elle est déjà terminée aujourd'hui au moment où nous parlons. Et donc, il va falloir s'adapter à cette nouvelle donne. Et beaucoup d'États dans le monde sont tout à fait accessibles et d'accord pour cette nouvelle géométrie du monde.
On va passer aux garanties de sécurité qui ont été proposés à l'Ukraine par l'UE et les pays du G7. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que celle-ci était dangereuse car elle porte atteinte à la sécurité de la Russie. Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs qui nous écoutent quelles peuvent être ces garanties et pourquoi elles représentent une menace pour Moscou ?
Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Ukraine, il faut savoir de quelle Ukraine on parle. Il est évident aux yeux des observateurs objectifs que l'Ukraine, telle qu'elle était depuis 1991, est terminée. La Russie, avec son opération militaire, a modifié la partie occidentale de l'Ukraine, qui est devenue russe, et ça ne changera pas. La Crimée et les quatre oblasts de l'Ukraine occidentale.
Orientale, pardon. Oui, donc on a Donetsk, Lugansk, Zaporozhye et Kherson. Oui.
Et Kherson, voilà. Et il est évident que ces quatre oblasts et la Crimée resteront russes. Du côté polonais, on sait qu'il y a une minorité polonaise qui est assez importante en Galicie et donc il y a des ferments de division énormes qui font que l'Ukraine ne sera plus celle qui avait été décrite 1991. Et donc, il y a aussi les minorités hongroises, les minorités roumaines. Donc, on voit bien que quand on parle d'Ukraine, on ne peut plus parler de l'Ukraine initiale. Ça, c'est un premier point. Et alors, ensuite, les menaces pour la sécurité russe, je pense que l'opération spéciale russe y a mis un terme. Et on s'oriente. Et après le sommet de Vilnius, je pense que l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, vont reconnaître qu'il faut respecter les impératifs de sécurité des nations, et notamment de la Russie, parce que cette guerre fait parce qu'on n'a pas respecté les impératifs de sécurité de la Russie. Alors, à ce sommet de Vilnius, la France a dit qu'elle allait fournir des missiles capables avec des portées plus longues, c'est-à-dire capables d'atteindre la Russie. Il y a eu une escalade à nouveau de promesses d'armement. On a parlé des F-16 encore, mais ça, c'est loin d'être fait, parce que les F-16, ça porterait aussi atteinte directement à la sécurité de la Russie. Donc, il y a une escalade à la fois verbale et puis en réalité, dans la fourniture d'armement de plus en plus sophistiquée à l'Ukraine. Ça porte atteinte effectivement à la sécurité de la Russie. Mais je pense que, vu l'échec de l'OTAN, l'échec militaire de l'OTAN sur le terrain ukrainien, l'OTAN n'a plus qu'une possibilité maintenant, c'est de chercher une solution de sortie de ce guépier dans lequel elle s'est mise elle-même. Et que dans les mois qui viennent, vous avez parlé tout à l'heure des élections de l'année prochaine, en 2024, effectivement. Moi, j'ai participé à une conférence à Strasbourg où j'ai dit qu'on pouvait craindre que jusqu'à l'élection américaine, on allait continuer à assister à cette escalade. Et j'espère quand même que non, que avant les échéances électorales de 2024, les Occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, car ce sont eux qui mènent la danse, vont réaliser que c'est aussi dans l'intérêt de mettre un terme à ce conflit avant même les échéances électorales aux États-Unis. Parce que l'élection présidentielle américaine, les opposants à républicains, qu'ils soient Trump, en particulier Trump, on dit qu'il mettrait un terme à cette guerre en Ukraine, mais il y a même au sein du Parti démocrate, notamment le candidat Robert Kennedy, qui lui aussi a dit qu'il fallait mettre un terme le plus tôt possible à cette guerre en Ukraine. Donc j'espère qu'on ne va pas attendre l'élection américaine, parce qu'il y a quand même des milliers d'Ukrainiens et de Russes aussi, hein, qui meurent en moins grand nombre que les Ukrainiens, mais pour les Ukrainiens, c'est une véritable boucherie. Il faut penser à tous ces gens-là, à leurs familles, et enfin bon, c'est un conflit ignoble.
L'ambassadeur de Russie en France, Alexei Meshkov, lui, par contre, il estime que l'OTAN pourrait être en train de préparer un plan B en cas de défaite ukrainienne. Et est-ce qu'il faut s'en inquiéter ?
Alors, il est évident que la défaite ukrainienne, comme j'ai un peu répondu à la question précédemment.
Oui, vous avez parlé, vous, que l'OTAN irait plutôt vers une négociation. Mais M. Meshkov, lui, ne partage pas cet optimisme. Il préfère, il pense que quelque chose d'autre va se préparer derrière.
Il y a un plan B, certainement. Il a raison en ce sens. Et puis aujourd'hui, on ne peut pas dire que les États-Unis sont prêts à sortir du conflit. Donc l'ambassadeur Meshkov a raison en disant qu'il y a sans doute un plan B et qu'au moment où nous parlons aujourd'hui, il n'y a aucune annonce d'un souhait des États-Unis d'Amérique, parce que ce sont eux qui mènent la danse en Ukraine, de sortir de façon honorable du conflit. Donc, il y a certainement un plan B. Alors, quel peut être ce plan B, je ne sais pas. À mon avis, il faut quand même que les États-Unis décident que ce conflit n'est pas gagné et ne peut pas être gagné, mais qu'en même temps, ils doivent préserver leur réputation de grande puissance et donc trouver une solution honorable pour eux. C'est difficile, c'est certain. On a vu en Afghanistan comment ça s'est passé. Si ça se reproduisait, ça serait une catastrophe pour eux. Donc je pense qu'ils vont chercher à trouver une solution un peu plus honorable de sortie que celle de la sortie de l'Afghanistan. Mais que peuvent-ils, quels moyens ont-ils? Pour le moment, les seuls moyens qu'ils disposent, c'est de continuer le conflit en Ukraine contre toute espérance de gagner, mais pour éviter justement une humiliation d'avoir perdu face à la Russie. Mais je pense que, et comme j'ai dit tout à l'heure, le président Poutine est un grand stratège et qu'il sait très bien qu'on ne peut pas humilier une nation comme les États-Unis, qui est une grande nation à la fois économique, mais surtout nucléaire, c'est ça qui compte. Et donc, il sera certainement prêt à faciliter une fin du conflit honorable pour les États-Unis. Alors, le plan B, vous avouerez que je ne suis pas dans les secrets de l'OTAN et que je ne sais pas ce qu'il prévoit, mais je ne vois pas très bien plan B l'ambassadeur Meshkov faisait allusion, mais...
Pensez-vous que ça pourrait être, par exemple, le Bélarus? On sait qu'il y aura une échéance électorale également l'année prochaine, et Svetlana Tikhanovskaya, qui est, on le sait, chapeautée par les pays occidentaux, était d'ailleurs présente à Vilnius lors de ce sommet.
Oui, je ne pense pas que ça présente un réel danger, parce que je peux me tromper, mais la Biélorussie est à fond avec la Russie, ça, y a aucun doute là-dessus. J'arrive pas à retenir son nom, là, opposante biélorusse, elle ne représente qu'elle-même et une toute petite fraction de la population du Biélorussie. Donc, je pense pas qu'elle puisse jouer un rôle important, décisif, dans un plan B éventuel, mais vous savez, on a vu tellement d'absurdités dans cette guerre que les Otaniens sont capables de faire flèche de tout bois et de l'utiliser, mais honnêtement elle ne présente aucune réalité géopolitique valable. Il est vrai que pour la Biélorussie, la menace vient surtout de la Pologne et peut-être de la Lituanie, mais effectivement, c'est une possibilité de plan B, c'est-à-dire de déclencher je ne sais quelle action et sous quelle forme. Il y a sans doute des stratèges américains, en tout cas otaniens, qui réfléchissent à ça, mais je ne pense pas que ça puisse déboucher sur un plan B victorieux pour les Otaniens, parce que il y a toujours en arrière-plan la menace nucléaire. Et on sait que maintenant, en Biélorussie, les armes nucléaires ont été réactivées. La Russie est là, tout à côté. Si vous voulez, le bouleversement qu'a apporté l'arme nucléaire dans l'art de la guerre, c'est qu'on peut mener des guerres atypiques, mais on peut pas mener de guerre nucléaire, parce que une guerre nucléaire, c'est la destruction de la planète. Et même avec des armes tactiques, je l'ai dit d'ailleurs dans une conférence à Strasbourg et ailleurs, même l'arme tactique, on peut pas l'employer, parce que l'arme tactique, elle est moins forte, mais c'est un engrenage et qui débouchera automatiquement vers un conflit nucléaire mondial. Et ça, c'est la fin de la planète. Donc, c'est inconcevable. Concernant la Pologne, concernant la Lituanie, concernant la Biélorussie, il peut y avoir un plan B qui envisage des actions, mais ce seront toujours des actions limitées. Pas que ça puisse être des actions décisives dans le déroulement de l'affrontement.
C'était Alain Corvet, conseiller français en stratégie internationale pour Spoutnik Afrique. Il a fait le bilan du sommet de l'OTAN à Vilnius, où, selon lui, les membres de l'Alliance ont commencé à prendre conscience de la défaite de l'Ukraine dans le conflit avec la Russie. Chers auditeurs et auditrices, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako, sur 99.5 FM. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Les Jeux Olympiques sont un puissant messager de paix et la participation des 206 comités nationaux olympiques aux prochains Jeux Olympiques de Paris serait un symbole fort de l'unité de l'humanité. C'est ce qu'a clamé récemment le mouvement des non-alignés dans une déclaration spéciale à l'issue d'une réunion en Azerbaïdjan. Précédemment, le Conseil de l'Europe a jugé impensable de permettre aux athlètes russes et biélorusses de participer aux JO de Paris. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a fustigé une minorité destructrice qui viole plusieurs documents fondamentaux, notamment la Charte olympique, la Déclaration de Berlin de l'UNESCO de 2013, plusieurs résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU, ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au micro de Spoutnik Afrique, Abdoul Diallo, expert politique malien, Lianoué Imhotep Bayala, acteur de la société civile burkinabé, de même que Paul Ella, géostratège et président du mouvement African Revival, ont commenté cette situation de politisation du sport menée par les Occidentaux. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe demande l'introduction d'une interdiction totale de la participation des athlètes russes et bélarusses aux Jeux Olympiques. Monsieur Bayala, pensez-vous que les principes olympiques sont toujours valables ? Le sport est-il vraiment en dehors de la politique ?
Je pense que cette action de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe vient violer les principes de base du Conseil olympique. Et c'est à l'administration olympique qui a ses critères de fonctionnement qui doit prévaloir. Il n'appartient pas à une institution politique régionale ou sous-régionale de l'Europe de fixer qui doit participer et qui ne doit pas participer. Et cela vient montrer que l'Europe n'arrive pas à s'appliquer à elle-même les principes de séparation des pouvoirs. Elle est loin de comprendre les règles de fonctionnement de la liberté et de la démocratie, et que ce qu'elle vient de poser comme acte est une ingérence politique dans une institution sportive, et que le sport, qui est censé être neutre, rassembleur, ils viennent de violer ce principe sacré. Et à partir de ce moment, le sport devient un instrument entre les mains de manipulateurs occidentaux pour régler leurs comptes à leurs adversaires politiques. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement mauvais pour l'avenir du sport mondial.
Et vous, monsieur Ella, quelle est votre appréciation de cette approche ?
Ce sont les Occidentaux qui disent donner des leçons de droits de l'homme, de démocratie, de liberté et de valeurs humaines au monde entier, mais ce sont eux qui les bafouent en premier. C'est totalement contraire à la Charte des droits de l'homme des Nations Unies qui indique bien que tout être humain naît, les êtres humains naissent égaux dans leurs droits, et donc qu'on respecte également la religion, les opinions, on respecte toutes les formes de liberté. Donc les Jeux Olympiques qui sont l'événement le plus couru, le plus important, qui fédère les différents sports et donc les différents sportifs et l'humanité en général. C'est juste impensable que ce soit les Jeux Olympiques qui discriminent et qui disqualifient sur la base des intérêts politiques occidentaux. Donc c'est encore une fois de trop l'hypocrisie occidentale qui est à l'œuvre, et c'est tout simplement inadmissible que les Jeux Olympiques soient instrumentalisés pour faire le jeu des égoïsmes politiques des Occidentaux.
Monsieur Diallo, et que pensez-vous de cette déclaration de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe ?
Ça, c'est une grave erreur de suspendre les athlètes russes et biélorusses parce que le sport ne doit pas être politisé. Parce que depuis le déclenchement du conflit Ukraine-Russie, nous avons pu constater qu'ils ont politisé le monde du sport. Vous allez voir à chaque match de la Liga, vous allez voir le drapeau ukrainien affiché. Donc c'est du parti pris. Et vous allez voir sur le maillot de jeu également de certaines équipes le drapeau ukrainien qui est affiché. Est-ce une solution ? Est-ce une méthode pour trouver une solution adéquate à ce problème dont tout le monde voudrait qu'une solution soit trouvée ?
C'est pas juste. Il ne faudrait pas politiser le sport. Le sport est un facteur de rassemblement, d'union. Le sport renforce les amitiés, la fraternité, la solidarité. Donc, il serait mal vu de politiser ce sport, qui pourrait même être également une solution à ce conflit Ukraine-Russie.
La déclaration spéciale du mouvement des non-alignés a été adoptée à Bakou à l'initiative du président de l'Azerbaïdjan et appelée à garantir la participation de toutes les équipes nationales aux Jeux Olympiques de Paris. Aujourd'hui, le mouvement des non-alignés comporte 120 États et 20 observateurs, soit plus de la moitié des pays du monde. Comment se fait-il que l'avis de la majorité des États ne soit pas pris en compte ? D'autant plus que cet avis s'appuie sur des principes de droit international, de la Charte olympique à la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est une question pour vous, monsieur Hella.
Il faut bien rappeler que la notion de droit international est une notion biaisée au service des seuls intérêts occidentaux. La notion de droit international provient des accords de la fin de la guerre des 30 ans et les accords de Westphalie. Et vous vous rappelez que la guerre des 30 ans, c'était une guerre civile européenne. Et comme eux seuls ont connu, les Européens, des guerres fratricides où ils se sont entretués depuis la guerre des 7 ans, la guerre des 100 ans, les premières et deuxièmes guerres mondiales, la guerre des 30 ans justement a donné comme résolution au niveau de l'Europe les différents traités de Westphalie qui ont établi la base de ce qui est aujourd'hui considéré comme le droit international et la diplomatie internationale. Mais vous vous rendez compte que cette diplomatie internationale, ce droit international, ne servent que les intérêts des Occidentaux. Donc c'est une mascarade, c'est un jeu de dupes en réalité, quand on parle de droit international, puisqu'il est allègrement foulé aux pieds par les mêmes Occidentaux, comme je le disais tantôt, qui pensent pouvoir nous donner à l'humanité entière des leçons de droits de l'homme et de droit international, tout simplement. Donc, 120 pays, donc plus de la moitié des pays du monde et même de la population mondiale qui s'organisent pour justement mettre fin à cette injustice et faire en sorte que tous les pays puissent participer sans exclusive aux Jeux Olympiques. Ce droit est quand même bafoué. Cette décision de la majorité des pays du monde est quand même bafouée par l'Occident, tout simplement parce que l'Occident ne considère le droit international que sous le prisme de ses seuls intérêts. Et donc les autres ne comptent pas. Vous avez beau être la majorité, eux, ils considèrent qu'ils sont le centre du monde et que ce sont eux qui décident pour la planète entière, pour l'humanité entière. C'est juste une arrogance inadmissible. Et donc, vous comprenez bien que le droit international tel que l'Occident le pense, c'est pour certains et pas pour d'autres. C'est la même chose pour la démocratie, pour les droits de l'homme, pour l'environnement et toutes ces prétendues valeurs qu'ils disent prôner. Ils considèrent que c'est eux, ce petit groupuscule d'oligarques, qui représente la communauté internationale. Vous comprenez bien que quand il s'agit du droit international, ils vont tout simplement le fouler aux pieds.
Et vous, Monsieur Diallo, comment réagissez-vous à un tel mépris de l'opinion majoritaire ?
Le monde a toujours été comme ça. Le monde est rempli de mensonges, surtout du côté des Occidentaux, qui veulent que tout se fasse comme ils le veulent. Ils voudraient s'imposer à travers le monde et montrer leur force de frappe. Ils voudraient faire savoir au monde que c'est eux les décideurs. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, il est temps pour les mouvements des non-alignés de prendre leurs responsabilités. Parce qu'on ne peut pas mettre de côté l'avis des 120 États membres du mouvement et 20 États observateurs. On ne peut pas mettre leurs décisions de côté. C'est injuste, c'est inacceptable. Donc c'est à eux également de prendre leurs responsabilités, vraiment de pouvoir dire leurs cinq vérités et de mettre les points sur les i. On ne peut pas également accepter ça.
Monsieur Bayala, selon vous, tout cela est-il conforme au droit international ?
C'est cette action de vouloir écarter certains pays qui ne sont pas en bonne entente avec les pays de l'Europe ou les pays occidentaux du bloc occidental montre très clairement que ce sont des nations qui ont un profond mépris du droit international, qui sont des nations fortement antidémocratiques, qui font le chantage d'être des nations qui respectent les droits humains, qui sont ouvertes, qui sont des sociétés ouvertes, alors que dans les actions, et notamment le fait de blacklister certaines nations qui ont d'autres perceptions, qui ont d'autres paradigmes du monde, est simplement un acte de violation flagrante du droit international, de la charte universelle ou la déclaration universelle des droits de l'homme, de la charte olympique et de bien d'autres principes à partir desquels la charte olympique s'est elle-même juridiquement inspirée. Et je pense que c'est la réputation et la dignité et surtout la capacité du peuple européen qui est remis en cause par ses dirigeants. Et je crois que les citoyens de ces territoires doivent revendiquer plus d'ouverture, une ouverture vers les autres pays et ne pas utiliser le sport pour faire du chantage à des adversaires politiques. C'est un jeu malsain, c'est un coup, des tentatives de coup en bas de la ceinture et cela ne saurait passer.
Le Comité international olympique s'est empressé de dire que cette déclaration était également conforme à ses recommandations. En attendant, le CIO exige que les athlètes russes et bélarusses participent aux compétitions en position neutre, c'est-à-dire sans drapeau ni hymne, et se réserve en outre le droit de ne pas les autoriser à concourir si les responsables olympiques ne sont pas satisfaits des opinions politiques des athlètes. Monsieur Bayala, pensez-vous que les propositions du Comité international olympique et du mouvement des non-alignés coïncident réellement ?
Je crois que le Conseil international olympique est instrumentalisé et manipulé parce qu'on enlève à ce sport-là sa dimension mondiale, sa dimension internationale pour en faire un instrument européen qui manipule et qui fait du chantage au monde. C'est un chantage qui ne saurait et qui ne devrait passer et on ne peut pas demander à des athlètes, à des artistes qui sont les ambassadeurs de leur pays, qui sont les diplomates. C'est de la diplomatie par le sport. Le sport est un outil pour valoriser une nation, pour valoriser un peuple. Et on ne peut pas demander à ces athlètes d'être à Paris et d'être des acteurs neutres. Est-ce que les athlètes des autres nations y seront en tant que des sportifs neutres? Si c'est ça le principe, que toutes les nations y aillent en étant des athlètes neutres qui n'appartiennent pas à aucun pays et qui n'ont aucun drapeau, aucun hymne national et ainsi de suite. Mais on ne peut pas, au nom du conflit ukrainien, bannir une opinion sportive. C'est un acte antidémocratique, c'est un acte anti-liberté et anti-droit ou accès aux loisirs et au sport qui sont indispensables pour le bien-être de l'humain, mais pour le bien-être de la société. Le drapeau, l'hymne national d'un pays, c'est l'expression sacrée de la valeur supérieure de ce pays. Et on ne peut pas demander à un athlète de ne pas faire partir du destin de son peuple, de ne pas faire partir du destin de son pays, de ne pas partager les joies et les douleurs de son pays.
Et vous, Monsieur Diallo, que pensez-vous de cette idée d'un statut neutre, sans drapeau ni hymne ?
Pour moi, même si on empêchait les Russes, les athlètes russes et biélorusses de ne pas porter leur drapeau, cela ne va aucunement les empêcher d'être russes. Ils sont nés russes, ils sont nés biélorusses, donc ils seront toujours fils ou filles de leur nation. Donc je crois que c'est une façon de les priver de leurs droits. On ne peut pas priver des athlètes de leurs droits à leur drapeau, de leurs droits également à leur hymne national. Parce que c'est à travers l'hymne qu'on les reconnaît, c'est à travers également le drapeau qu'on les reconnaît. Le public qui sera là va les reconnaître comment? Il ne peut pas participer à ce jeu en tant que neutre, c'est impossible. Ça n'a jamais été fait dans le monde du sport. À moins que si je ne le sais pas, en tout cas à ma connaissance, ceci n'a jamais été fait dans le monde du sport. Donc, à force d'aller dans ce centre, ça risque de provoquer dans les jours à venir un scandale dans le monde du sport.
Les pays africains sont également victimes de sanctions, y compris dans le domaine du sport. Par exemple, la FIFA n'a annulé que récemment la disqualification de la Fédération zimbabwéenne de football qui avait été suspendue de toute compétition pendant un an et demi. Monsieur est là, pourquoi les compétitions sportives, qui devraient rapprocher les peuples, sont-elles devenues un moyen de pression politique ?
Mais les pays africains font partie du monde et les pays africains sont la cible privilégiée de la prédation occidentale. Aucun autre continent n'a subi les assauts hégémoniques de l'Occident comme l'Afrique. L'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, la France-Afrique, ben l'Afrique, c'est leur cible privilégiée pour tout ce qui est pillage, violence, vol, mensonge, manipulation. Et donc, pourquoi est-ce que l'Afrique serait exemptée quand d'autres pays hors d'Afrique sont victimes de cette hégémonie malveillante occidentale? Donc, ce n'est pas étonnant, mais c'est aux Africains de s'affirmer et de démontrer qu'ils ne veulent plus être sous la coupole d'un Occident spoliateur et qu'ils ont la capacité de se libérer par eux-mêmes, par l'appui des pays amis qui sont épris de liberté et qui s'opposent à l'impérialisme occidental, mais également par la détermination tel que ça a déjà commencé, à diversifier leurs partenariats et à réduire comme une peau de chagrin les parts de partenariats avec l'Occident, parce qu'on a bien vu que l'Afrique a pour pire malheur ses rapports avec l'Occident, qui n'apporte absolument rien, qui passe son temps à bluffer, mais qui a pour principal programme hégémonique depuis des siècles, de spolier, de piller, de tuer, de violenter les Africains. Donc, seuls nos richesses les intéressent et rien d'autre. Et donc, il est tout à fait plausible que l'Afrique soit elle-même la cible de cette folie occidentale qui vient impliquer instrumentaliser les Jeux Olympiques, le sport à des fins mercantiles. Donc, le Zimbabwe, par exemple, à l'époque de Robert Mugabe, était une cible privilégiée pour déstabiliser ce pays de la part de l'Occident, puisque vous savez très bien que Robert Mugabe avait des positions politiques qui allaient à contre-courant des desiderata et capitalistes et impérialistes occidentaux en général, et notamment américains et anglais. Donc, voilà, c'est la norme occidentale, piller, voler, violer, mentir et violenter. Et donc, malheureusement, ils prennent le sport en otage pour faire passer leur basse manœuvre, et c'est bien regrettable.
Monsieur Diallo, votre pays est également confronté à des sanctions et à des restrictions. Pourquoi le sport a-t-il vraiment été transformé en arme ?
Justement, les pays africains ont toujours été victimes de sanctions illégales, illégitimes, criminelles également, même en dehors du sport. Vous voyez le cas du Mali, par exemple, je profite pour le dire. Lorsqu'il y a eu renversement du pouvoir au Mali, je dirais même pas remplacement, parce que changement de pouvoir, parce que c'est le peuple qui a demandé à ce que le président feu Ibrahima Boubacar Keïta soit parti du pouvoir pour qu'il y ait un changement. Parce que le président ne répondait plus à leur aspiration. Donc, du coup, les militaires sont venus au pouvoir et des sanctions ont été prises contre le Mali le 9 janvier 2022 à Accra, dans la capitale ghanéenne. Des sanctions qui ont été instruites par
le président Emmanuel Macron, je le dis haut et fort, sans crainte ni peur. C'est-à-dire, c'est lui qui a instruit au chef d'État de la CEDEAO de prendre des sanctions lourdes contre le Mali. Revenant toujours dans le sujet du cadre du football, vous savez, la FIFA est contrôlée par les Occidentaux et par les Américains. C'est eux qui décident. L'Afrique a toujours été victime. Vous avez vu le cas de Gueye, le joueur sénégalais, qui a refusé de porter les signes LGBT. Il a été victime de ça. Donc, il faut que le sort soit neutre de certaines aspirations politiques ou religieuses. Vraiment, il faut mettre le sport de côté et pour ne pas politiser le sport. Ils ont toujours essayé de trouver des moyens de pression politique à l'encontre de beaucoup de pays africains à travers le sport.
Les pays africains sont unanimement favorables à la participation des athlètes russes aux compétitions organisées sur le continent. Monsieur Bayala, quelle est votre attitude à l'égard de cette idée ?
Oui, je pense que les pays africains qui sont favorables à la participation des athlètes russes sur le continent, c'est une très belle décision. C'est une décision de rapprochement, c'est une décision de fraternité universelle qui est nécessaire pour raffermir nos liens, et aussi bien nos liens économiques, politiques, militaires, et l'ensemble de nos liens stratégiques. Et c'est aussi une force et une voix qui pèse au niveau international, national, global, dans les instances de grandes décisions. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'alliés stratégiques de la puissance de la Russie pour pouvoir bousculer les intentions machiavéliques et dictatoriales du bloc occidental.
Et vous, monsieur Ella, qu'en pensez-vous de cette initiative ?
Les pays africains sont solidaires de tous les peuples qui sont épris de liberté et qui s'opposent à l'hégémonie impérialiste occidentale. Donc c'est tout à fait normal que l'Afrique, qui, comme aucun continent sur la planète, comme les Africains, qui, comme aucun peuple sur la planète, ont subi et continuent de subir les injustices violentes occidentales, c'est normal que les Africains, qui sont les premiers humains qui sont l'Afrique qui est la mère de l'humanité, c'est normal que l'Afrique soit solidaire de tous ceux qui subissent également ces injustices. Et donc la Russie n'a jamais colonisé un pays africain, la Russie n'a jamais trafiquer des Africains dans le cadre de la traite des guerrières, de l'esclavage. La Russie, au contraire, a toujours été aux côtés de l'Afrique dans les luttes de libération. Et donc, il est de bon ton que les Africains remontent l'ascenseur et se battent aux côtés de la Russie pour que les droits humains soient préservés et que le sport, qui est en train d'être infesté de l'esprit mercantile et hégémonique de l'Occident, en soit libéré. Donc c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal et plausible que les Africains se rangent du côté de la Russie quand la Russie subit des injustices. Et c'est le cas pour tous les autres pays du monde qui ne s'alignent pas dans les combines du capitalisme occidental.
Et vous, Monsieur Diallo, je vous donne le mot de la fin sur ce sujet.
Moi, les pays africains ont toujours été unanimement favorables à la participation des athlètes russes aux compétitions organisées sur le continent. Ils ont toujours été favorables. Il ne faut pas écarter quelqu'un, il ne faut jamais mettre quelqu'un de côté. Moi, à travers mon organisation au Mali, qui est le réseau des communicateurs, blogueurs et activistes professionnels du Mali, bientôt, nous organisons une coupe, et je profite pour le dire, une coupe, la coupe de l'amitié Mali-Russie, en guise de remerciement au peuple russe qui a soutenu le Mali pendant ces périodes de calvaire, ces périodes de difficulté. Vous avez vu, la Russie a mis à la disposition du Mali, sur le plan humanitaire, plus de 25 000 tonnes de blé, et ça, c'est salutaire. Et tandis que d'autres pays nous ouvrent leurs forces pour anéantir nos souffrances, il y a d'autres qui porte des sanctions contre nous. Donc moi, je suis favorable à ce que la Russie également participe à des compétitions organisées sur notre continent.
C'était Abdoul Diallo, expert politique malien, Lianoué Imhotep Bayala, acteur de la société civile burkinabé, et Paul Ella, président du mouvement African Revival, pour Spoutnik Afrique. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons dès à présent l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Zone de Contact. Je vous invite à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.